dans le livre du prophète Malachie, chapitre 1er. Vous devez savoir certainement que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 1er, nous lirons le chapitre en entier. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Édom dit, nous sommes détruits. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant « La table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Vous dites « Quelle fatigue !» Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. » Oui, Seigneur, c'est avec beaucoup de respect, en même temps d'amour et d'affection pour toi, que nous disons que tu es un grand Dieu. Tu nous l'as prouvé aux uns et aux autres en étendant tes mains sur nous, et en nous délivrant de notre péché. Cependant, nous reconnaissons, Seigneur, combien les gratitudes est souvent notre partage. Et c'est la raison pour laquelle nous te prions de nous venir en aide, afin que nous puissions mieux comprendre quelle est l'œuvre tellement merveilleuse, œuvre de grâce, que tu as accomplie pour chacun d'entre nous, et que notre cœur soit vibrant d'amour pour toi, afin que chaque réunion soit une occasion pour nous de te rendre hommage et de te rendre gloire. Seigneur, ouvre notre entendement et notre cœur, rends-nous sensibles à ta voix et dirige-nous selon ton conseil. Nous nous attendons à toi et nous te louons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'ai été frappé au début de cette réunion et juste pendant les moments de prière que nous avons eus au préalable, en espérant qu'il y aura aussi la possibilité encore de continuer à prier le Seigneur et à intercéder. Mais j'ai été frappé d'abord par une remarque faite par notre frère qui nous a dirigés dans les champs et qui a dit « Nous allons entendre la parole du Seigneur » et il a osé dire peut-être quelque chose d'agréable, mais il a dit peut-être aussi quelque chose de désagréable. Mais quoi qu'il en soit, a-t-il ajouté, eh bien, c'est la parole du Seigneur. Je dois vous avouer que juste avant de venir et après avoir médité la parole de Dieu, je me disais, mais comment les chrétiens vont-ils recevoir le message ce soir ? Puis j'ai entendu un frère prier le Seigneur et dire exactement la même chose, en disant, nous allons entendre la parole de Dieu, peut-être dans un bon sens, peut-être aussi elle va nous corriger. Mais quoi qu'il en soit, a-t-il répété aussi, c'est la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, je vais commencer par vous dire ce que je vais, avec l'aide du Seigneur, vous présenter très simplement ce soir. Je l'ai reçu en premier dans mon cœur et pour moi-même. Le premier à avoir été corrigé, c'est moi. Et je vais faire avec toute la grâce de Dieu, avec sa miséricorde, sa compassion, eh bien, ce que le Seigneur me demande de faire. C'est-à-dire de vous dire ce qui est contenu ici dans le livre. Peut-être quelqu'un va me dire, oui, mais ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, et puis nous voyons bien où vous voulez en venir, eh bien, ça concerne le peuple d'Israël, ça ne nous concerne plus nous, il n'y a plus de sacrifice, comme autrefois cela était fait, nous ne sommes pas concernés par cela. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu est également pour nous, même quand ce que nous découvrons en elle est en premier lieu adressé à Israël, son peuple. Mais nous ne pouvons pas oublier, comme souvent nous avons eu l'occasion de le dire, que ce qui est arrivé à ce peuple leur est arrivé pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors j'ai besoin de replacer un petit peu le message de Malachie dans le contexte dans lequel il a été délivré ce message. Il faut vous dire que à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une punition qui a été le partage de ce peuple à cause de son péché. Et le Babylonien est intervenu et il y a eu une invasion. La ville de Jérusalem a été détruite, le temple a été également détruit, et puis après, il y a eu une restauration. Parce que je me dois quand même de vous dire que si le Dieu que nous servons est extrêmement sévère, il est riche en amour. Avez-vous remarqué le cantique premier que nous avons chanté ? Et le frère n'était pas du tout au courant de ce que j'allais dire ce soir. Dans une des strophes, disait exactement ceci, « Il est riche dans son amour, mais sévère dans ses exigences. » Et j'ai l'impression que parfois nous avons besoin de prendre conscience que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous honorons, c'est un Dieu saint, un Dieu grand, un Dieu plein d'amour. Et d'ailleurs, l'accent sera mis sur l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Mais en même temps, il attend un juste retour. Et ce juste retour, vous en conviendrez, c'est que nous lui soyons agréables en lui apportant le sacrifice de lèvres qui confessent son nom et qui le font non pas d'une manière superficielle et légère, mais en prenant conscience de ce grand amour et de ce sacrifice formidable qui a été accompli en notre faveur sur la croix du calvaire. Je reviens donc à mon texte. La première phrase, c'est « Oracle, parole de l'Éternel en Israël ». J'aimerais vous dire que Malachi, son nom, a une signification déjà assez particulière. Ça veut dire « mon messager », c'est l'abrégé de « messager du Seigneur ». Et le texte commence par « oracle ». Et ce terme qui est utilisé là, qui est défini de cette manière-là, vient d'un hébreu radical qui signifie « porter un fardeau ». Ça veut dire que Malachi aimait le peuple, il était conscient aussi de ce qui se passait au milieu de ce peuple. Il n'avait peut-être pas eu encore l'occasion de dire tout ce qu'il ressentait au fond de lui-même, mais là, il se sent pressé par Dieu, poussé par Dieu à apporter un message qui va droit au cœur de ce qu'il va interpeller au travers de sa prophétie. C'est un fardeau. Vous savez, comme l'a dit quelqu'un, les prédicateurs ne sont pas toujours de joyeux lurons et ils ne sont pas toujours là pour plaisanter, toujours là pour apporter des paroles qui peuvent satisfaire notre ego. Mais il y a des moments où précisément ça va un peu en sens inverse et notre cœur peut en être blessé. Mais nous ne devons jamais oublier que même lorsque Dieu nous blesse, je devrais dire nous châtie ou nous punit, c'est toujours pour notre bien. Comme nous, Père, nous châtions nos enfants parce que nous les aimons, Dieu aussi peut nous châtier, et cela est écrit dans l'Épître aux Hébreux, mais c'est aussi parce qu'il poursuit un but, il nous aime et il veut que nous puissions atteindre le but qu'il s'est assigné pour chacun d'entre nous. Alors, le message, justement, de Malachi, dans un premier temps, est un message remarquable qui pourrait satisfaire tout le monde. Il dit de la part de l'Éternel, écoutez bien, parce que finalement, c'est ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous aussi ce soir. Il dit, je vous ai aimé. C'est pas formidable, ça? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Le problème, c'est que le peuple d'Israël reçoit ce message d'une manière étonnante et il dialogue avec Dieu, il l'interpelle, et il dit, ah oui, ah bon? Et en quoi nous as-tu aimé? Vous vous rendez compte? Il réplique de cette manière-là à Dieu, « En quoi nous as-tu aimé ?» Alors, Dieu est obligé de leur montrer comment il a prouvé son amour. Alors, il part du commencement et il dit, « Ésaü, n'est-il pas frère de Jacob ?» dit l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Comprenez bien. De la haine pour ce qu'il allait faire dans sa vie. Parce que Dieu connaît tout par avance dans sa préscience. Il sait bien ce qu'Ésaü allait devenir, ce profane qui est d'ailleurs désigné comme tel dans l'Écriture. Et il a eu de la haine pour les principes qui régissaient à sa vie. Et c'est la raison pour laquelle il met en relief ce contraste. Pourtant, dites, à choisir entre les deux, sur le plan humain, il y en avait un qui paraissait tellement gentil avec son père, c'était ce fameux chasseur, il cherchait toujours du gibier pour son père, d'ailleurs son père l'aimait bien. Mais nous savons tous que Jacob, quant à sa nature même, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un trompeur, c'est le fameux rusé. Il n'y avait rien d'attirant. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre n'avait fait des actions qui étaient condamnables, puisque c'est même dès avant leur naissance que Dieu a jugé ces personnes de cette manière-là. Mais Jacob, le trompeur, et nous avons tous lu l'Écriture, et nous savons tous comment il s'est comporté, comment il a agi, comment finalement il a manifesté sa nature tellement mauvaise. Mais nous avons pu aussi découvrir comment Dieu a agi, comment Dieu a fait un miracle dans sa vie, comment il a été transformé. Et ça, ça s'appelle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous a atteints les uns et les autres. Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui pourrait se lever, se glorifier en disant « Ah, mais moi, je suis vraiment un être qui mérite toute chose. Je suis vraiment au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. » Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui pourrait se lever et dire cela. Chacun d'entre nous, je crois, parce que j'entends aussi vos prières, peut dire « Seigneur, nous ne méritons rien. Nous ne sommes rien. » Je l'ai entendu encore ce soir, quelqu'un le dire dans sa prière. Je ne suis rien. Nous dépendons de ce Dieu qui nous aime. Et le problème dans beaucoup, beaucoup d'églises et au milieu du peuple de Dieu, c'est que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre ô combien l'amour de Dieu est grand. Et vous savez, mes frères et sœurs, même dans ce monde, je dirais en dehors de ce domaine spirituel et religieux. S'il y a quelqu'un qui souffre à l'extérieur dans ce monde, c'est bien souvent par manque d'amour. Et vous entendez souvent une personne dire « Oh, si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aime vraiment, il me semble que je pourrais aborder la vie d'une manière différente. » Eh bien, nous, nous devons être assurés que Dieu nous aime. Ici, le prophète le dit de la part de Dieu. Et vous allez dire, et pour nous, nous dit-il la même chose? Mais lisez tout le Nouveau Testament. Et en lisant tout le Nouveau Testament, vous allez découvrir comment Dieu a prouvé son amour à notre égard. Alors que nous méritions la mort, lui il s'est livré à la mort pour que nous, nous soyons les bénéficiaires de la vie éternelle. Et écoutez encore, il me semble qu'à cette question, mais en quoi nous as-tu aimé? Il y a une réponse pour nous dans le Nouveau Testament, si jamais la question était dans votre cœur. Regardez, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, et si je ne me trompe au verset 1er, il est dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais Jésus lui-même nous le rappelle souvent dans l'évangile de Jean. Nous avons les paroles du Seigneur qui nous sont rapportées, et que ce soit dans le chapitre 16 ou que ce soit au chapitre 17, dans cette fameuse prière qui est appelée la prière sacerdotale, on voit comment Dieu nous rappelle, Jésus nous rappelle, comme le Père m'a aimé, vous aussi vous êtes aimés du même amour. Vous vous rendez compte? Cet amour que Dieu a eu pour le Seigneur, il a également pour nous. Et vous voyez l'histoire de Jacob. Moi, c'est un baume pour mon cœur. Parce que si Jacob ne le méritait pas, mais qu'il a été aimé de cette manière-là, alors je trouve un réconfort. Parce que je me dis, moi non plus, je ne le mérite pas, mais le Seigneur m'aime. Mais pour ce peuple, Alors Dieu a commencé par, justement, Ésaü, par Jacob, mais il y a quand même une racine, il y a Abraham. Et Abraham, c'est Dieu qui l'a choisi. Et la Bible dit que la grâce de Dieu a été sur sa vie. C'est le premier avec lequel il a passé une alliance. Une alliance avec Abraham. Et puis plus tard, il y a eu l'histoire d'Israël, son passage en captivité dans le pays de l'Égypte. Puis la grâce de Dieu qui s'établit, le voilà délivré, délivré de l'Égypte. Un grand miracle est accompli, c'est à main forte et à bras étendus que Dieu le délivre. Et maintenant, le voici recevant une nouvelle loi. Je dirais la loi qui a été communiquée par Moïse sur le mont Sinaï. Cette fois, il y avait précisément à prendre conscience que si Dieu traitait alliance avec le peuple, il attendait un juste retour. C'était l'obéissance à cette loi. Et nous, nous savons tous qu'il y a eu une faillite totale, complète. Israël a dit, nous ferons ce que tu dis. Mais ils ne l'ont jamais fait. Cependant, l'amour de Dieu ne s'est jamais, jamais éloigné de ce peuple-là. Et Dieu n'a pas béni Abraham et ce peuple pour faire une différence avec les autres nations, non. Parce qu'il avait déjà dit à Abraham, je te bénirai, mais aussi par ce moyen-là, par ta postérité qui va être tellement nombreuse, je bénirai aussi les autres nations. Toutes les autres nations seront bénies. Et ici, eh bien Malachi le rappelle à ce peuple. Car à un moment donné, vous avez remarqué, il fait un reproche à ce peuple, et puis nous allons y revenir dans un instant. Mais il dit, mais dans les autres nations, on brûle de l'encens à mon égard. On brûle de l'encens pour moi. C'est un peu comme s'il voulait exciter la jalousie de ce peuple et leur dire, regardez, vous avez été des privilégiés, je vous ai bénis, je vous ai accordé des choses que les autres nations n'ont pas eues. Et pourtant, eux, eh bien, ils sont capables de faire monter vers moi de l'encens, de m'honorer, de me glorifier. Je suis quand même heureux de dire ce soir, sur toute la surface de la terre, et même si nous, nous représentons qu'une poignée de chrétiens, il y a quand même dans le monde entier des hommes et des femmes qui honorent, qui glorifient Dieu et qui rendent hommage à Jésus, le Sauveur et le Rédempteur. Vous êtes d'accord avec moi, pas vrai? Il y en a des milliers. Et ça, c'est l'œuvre accomplie par le Seigneur. Alors, il leur rappelle ceci. Et bien entendu, maintenant il va aller droit au but. Et il disait, ce peuple, mais la table de l'Éternel est méprisable. Qu'est-ce qu'on a à retirer comme nourriture? C'est méprisable. Peut-être nous n'aurions pas l'audace de parler de cette manière-là au sujet de la parole du Seigneur. Je vous ai entendu honorer la parole de Dieu même, y compris ce soir, et vous faites bien, parce que c'est précieux d'avoir cela. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, même quand on ne le dit pas, et que les Bibles se couvrent de poussière sur notre table de nuit parce qu'on ne l'ouvre que très rarement, vous ne croyez pas qu'on est en train de dire à Dieu, ta nourriture est méprisable? Ta table est méprisable? Combien de temps pour méditer l'Écriture? Combien de temps pour méditer ce que Dieu nous dit au travers de ce livre? Par comparaison avec combien de temps dans d'autres choses qui sont parfaitement inutiles? Et je vous accorde que nous n'échappons pas à ce jugement de Dieu, ni les uns ni les autres. Et cela nous amène à réfléchir. Et il dit, mais qu'est-ce que vous m'offrez? Vous m'offrez des bêtes boiteuses ou infirmes? Et il pose la question, mais n'est-ce pas mal? Parce que justement, dans la Bible, dans l'Écriture, dans le livre du Lévitique, autant que dans le livre du Deutéronome, vous pouvez chercher cela avec beaucoup d'attention. Mais Dieu a interdit qu'on lui apporte des animaux qui étaient mal formés. C'était indigne. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué de quelle manière Dieu interpelle ce peuple? Il utilise même un petit peu d'ironie. Et il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Vous allez voir un peu si le gouverneur, il va être reconnaissant. Imaginez avec moi, imaginez seulement un instant. Il y avait à ce moment-là, du temps de ce prophète, un gouverneur persan qui se trouvait là en Israël. Et ce gouverneur-là, eh bien, il avait quand même une certaine dignité et on devait le respecter. Sinon, il y avait aussi de sérieux problèmes auxquels le peuple pouvait être exposé. Mais imaginez que l'on entre dans la salle à manger du palais royal du gouverneur, puis qu'un seul coup arrive, comme j'ai eu l'occasion de le lire dans un certain livre, un homme en proclamant avec les hommages du chef cuisinier. Et puis, il enlève le couvercle, vous savez, comme ça se fait dans les grands restaurants. Et vous voyez ce que l'on trouve là? On y trouve un gigot d'agneau qui est puant, en corruption, rempli d'asticots comme les fromages corses, qui se déplacent tout seul. C'est pas vrai, frère, là-bas, le corse, il doit s'en souvenir. Et est-ce que vous croyez que le gouverneur va dire « Oh, formidable, quel honneur !» On ne se moque pas de Dieu. Mais dites-moi, frères et sœurs, quel rapport avec nous? Dites-moi, quand on chante sans que le cœur y soit, quand on est présent à la réunion alors que notre esprit est en train de vagabonder ailleurs, quand nos prières sortent de la bouche, mais ne sont pas le reflet du fardeau peut-être même qu'il y a dans notre cœur, que nous ne lui parlons pas, pardon de l'expression qui va suivre, avec nos tripes, mais que nous lui parlons d'une manière religieuse. Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous nous comportons? Alors, en même temps, le peuple, eh bien, disait, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Et Dieu leur répond et leur dit, c'est de vous que cela vient. Est-ce que je pourrais recevoir favorablement vos prières? Vous comprenez bien qu'on ne peut pas tromper Dieu. D'ailleurs, clairement, il est écrit dans la Bible, on ne se moque pas de Dieu. Et ce que l'on sème, bien, on le récolte. Et là, il criait. Et vous savez, pourtant, Dieu, un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, mais ce qui m'a étonné, c'est de lire au verset 10, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel ?» Ça semble presque impossible que Dieu le désire, que son temple soit fermé pour de telles actions, ça ne vaut pas la peine qu'ils soient ouverts. Et il dit, lequel d'entre vous le fermera? Eh bien non, bien sûr. Heureusement que le peuple a pu se ressaisir. Heureusement qu'il y a eu une réaction. Heureusement qu'entendant la parole de Dieu, il y a eu la repentance. Et quand il y a la repentance, Dieu est toujours plein de miséricorde. Et il est capable de relever, de consoler, de fortifier et de nous donner la possibilité d'être conformes à sa volonté dans tous les domaines par la puissance de son esprit. Mais la puissance de son esprit et la plénitude de son esprit ne pourra venir en nous que dans la mesure où nous acceptons d'être vidés de nous-mêmes et vidés de tout ce qui est contraire à sa volonté. C'est la raison pour laquelle, après avoir parlé au peuple, j'en ai juste pour quelques instants encore, eh bien, il s'est adressé au sacrificateur. Et sacrificateur, c'est qui? Bien, c'était ce que Dieu avait choisi. Parmi toutes les tribus, il y en a une qu'il a désignée, Lévi, pour être sacrificateur de l'Éternel. Le rôle de cette tribu, le rôle de ces sacrificateurs, c'était quoi? C'était d'offrir à Dieu des sacrifices pour permettre au peuple de recevoir le pardon de leurs péchés, après avoir reçu le pardon de leurs péchés, d'avoir une relation normale avec ce Dieu. C'est quand même extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on voit dans la Bible que finalement, ce temple, ce tabernacle, ce lieu de rencontre avec Dieu, c'était tellement important parce que c'était là que finalement, quand le sacrifice était agréé, eh bien que la présence de Dieu, la Shekinah, cette gloire de Dieu descendait sur le propitiatoire et il y avait là quelque chose d'extraordinaire. Et quand le peuple voyait ressortir le sacrificateur vivant, ce qui voulait dire que le sacrifice avait été agréé, mais il y avait un cri de joie et tout le peuple se réjouissait parce que Dieu avait fait grâce. Et il s'adresse au sacrificateur parce que quelle était la responsabilité de ces sacrificateurs? C'était de veiller à ce que personne n'amène une bête comme nous l'avons désigné tout à l'heure. Chétive, malade, infirme. Ils devaient veiller à cela. Ils n'auraient jamais dû accepter cela. Jamais. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu les reprend, eux. Moi, il me semble qu'il y en a un parmi nous qui pense tellement fort que je l'entends ici. Il est en train de dire, eh bien, ça c'est bon pour vous les pasteurs. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, vous et moi, nous sommes logés à la même enseigne. Écoutez Pierre parler. Dans la première épître de Pierre, il est dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà le nouveau peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à lui offrir des sacrifices. Ah oui, bien sûr. Avez-vous remarqué? Il dit, mais vous m'apportez des animaux chétifs. Mes frères et sœurs, ça m'a fait réfléchir quand même. Remarquez combien dans notre vie, la carrière passe en premier lieu, le loisir passe en second lieu, et puis le reste de notre vie pour Dieu, s'il reste encore quelque chose. Remarquez bien cela. Et cela nous amène quand même à un point de réflexion. Mais ce n'est pas le reste que je veux donner à Dieu. Pour moi, c'est déjà trop tard. Et comprenez bien, mes frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Dieu nous appelle à lui offrir des sacrifices, une offrande de notre être tout entier. Et un sacrifice, comme son nom l'indique, ça coûte cher. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous ne l'acceptons pas, ça. C'est la raison pour laquelle il y en a qui disent « Ah oui, mais c'est trop difficile. Ah, ça ne sert à rien de servir le Seigneur. » Et même, encore une fois, pour la deuxième fois, c'est répété dans ce chapitre, ils disent « Mais la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte, hein, rapporte, c'est ça qui est intéressant, ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Quelqu'un pourra dire « À quoi ça sert? Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais c'est méprisable, ça sert à quoi ça ?» Il n'y a rien, rien, aussi petit soit-il, qui est fait pour le Seigneur, qui ne recevra un jour de la part du Seigneur une récompense. Et si je dis cela, c'est parce que quelques-uns ont pris cette habitude, pardon, de vous dévoiler certaines choses. Mais certains disent, ah ben moi j'ai fait l'école biblique, j'ai fait tant d'années d'études, et si j'ai fait tant d'années d'études, j'ai une telle capacité et j'ai un tel art oratoire que je n'ai pas besoin de me présenter devant une petite église d'une dizaine de chrétiens. Moi, il me faut une grande église, pauvre type. Pardon pour l'expression, mais quel mépris! Quel mépris! Parce que qu'on s'occupe de 3, 4 personnes, 10 ou 100. Quelle est la différence? Dieu va récompenser en fonction de la fidélité et non pas de nos exploits. C'est la raison pour laquelle ici, Eh bien, Dieu parle très sévèrement à ce peuple et il met en relief ce qui doit être fait. Le culte offert par ces gens-là, eh bien, c'était un culte sans valeur. Sans valeur parce que ça ne leur coûtait rien. C'était un culte, je dirais, irréfléchi, parce qu'ils disaient que des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et puis c'était surtout un culte hypocrite, parce qu'il y avait l'apparence. Mais Dieu, qui ne se fie pas aux apparences, bien pouvait constater que quelque chose n'allait pas dans le fond du cœur. Et leur demande donc de réformer leur voie. Ça vaut la peine, vous savez, de vous pencher sur l'ensemble du message qui se trouve dans le livre du prophète Malachie. Et puis que nous puissions répondre avec notre cœur. Le frère disait tout à l'heure, la Bible c'est comme un miroir. Et il dit, il faut bien regarder. Ben oui, le matin, c'est mieux d'avoir une bonne vue pour voir dans quel état on est quand on se présente devant le miroir. On n'est pas beau, vous savez. Pas beau le matin, hein? Avec la barbe qui pousse, les poils de partout, les cheveux hirsutes, c'est pas beau. Mais heureusement, si je me présentais comme je me lève le matin ici, et en pyjama, vous me mettriez dehors, hein? Mais non, je fais quand même un effort. Le miroir me parle et j'agis en conséquence. Bien, pourquoi est-ce que nous allons nous présenter sur le plan spirituel n'importe comment? Alors que l'Écriture, le miroir, nous a dit certaines choses, et puis nous disons, oh, une fois de plus, et nous laissons passer. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, si nous voulons voir la gloire de Dieu, que Dieu nous aide à mettre notre vie en règle, en fonction de ce que Dieu nous révèle dans l'Écriture. Que Dieu vous bénisse.